France Culture.
دخترم یار پریشانی و آوارگیم شعر مرا نخوان نمیخواهم سرزمین تو باشم
نولی پام پوئم ما فی پارتنر دو ما دترس و دو مون ارانس نولی پا ما پوئزی Je n'aimerais pas être ta patrie. Ne te promène pas dans mes roues. Il n'y a rien de nouveau chez moi. Ma fille, Ghazal de mon ivresse et de ma folie. Ne m'interroge pas sur mes pleurs interminables. Je suis une larme coulée des yeux de l'histoire. Des milliers de femmes et d'hommes dans mes rêves se sont moqués de la morte. Ma fille, tes yeux sont le ciel pluvieux de Téhéran. Tes chants défient mon talon de poète. Pardonne-moi si j'ai abandonné ta maison. Si je t'ai mis au monde au carrefour de néant. Si je laissais ta joie au coin d'un roue inconnu. Ma fille, ne lis pas ma poésie. Ne voyage pas en moi.
دخترم شعر مرا نخوان در من سفر نکن
France Culture Le Book Club Marie Richeux
Une édition spéciale de votre book club aujourd'hui est un orage de mots. Souvent, à la source des slogans clamés par la foule des manifestantes et manifestants dans les rues iraniennes, à l'origine des messages devenus viraux sur la toile, derrière une chanson, un rap devenu emblématique et rassembleur pour celles et ceux qui se soulèvent contre le régime iranien, on trouve un poème ou une référence à la culture littéraire persanophone. Le mouvement Femme, Vie, Liberté, Jin, Jiyan, Azadi, Zan, Zendegi, Azadi, débuté après la mort en détention de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, ce mouvement révolutionnaire avait emprunté, revisité, revivifié cette grande tradition protestataire et poétique. Une forme de continuité militante et langagière dont nous nous proposons de nous faire l'écho dans cette édition spéciale du Book Club, alors que le tout récent soulèvement est gravement réprimé dans le sang, comme en témoignent les informations sidérantes nous arrivant au compte-gouttes après le rétablissement du réseau internet en Iran. Plusieurs dizaines de milliers de morts sont à déplorer. Avec nous, la sociologue et écrivaine Shala Shafik, autrice de l'ouvrage « Un orage de mots » paru aux éditions Rue de l'Échiquier, la traductrice, poétesse, maîtresse de conférences Leyli Anvar, spécialiste de la poésie et spiritualité persane qui fait paraître prochainement un ouvrage sur la poétesse Foru Farorsak chez Poésie Gallimard. Par téléphone, depuis les États-Unis, la poétesse et universitaire Farzaneh Milani et Shiva Rouholamini qui nous fait l'amitié d'être en plateau pour la lecture des poèmes en direct. Bienvenue à toutes les trois autour de la table. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation un petit peu particulière. Ce numéro spécial du Book Club s'inscrit dans une proposition plus large de la chaîne France Culture. Vous pouvez réécouter via l'application Radio France une sélection d'émissions consacrées à la situation actuelle en Iran, ce qu'on en sait, ce qu'on peut en dire en ce presque dernier jour de janvier 2026. Bienvenue donc à vous trois. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais qu'on commence par la voix de Farzaneh Milani qui signe la très belle préface de votre ouvrage, Shala Shafik. Elle nous a adressé un mot depuis les États-Unis, faute de pouvoir être en direct avec nous, en nous précisant qu'elle travaille sur ces questions qu'elle juge essentielles et ce depuis une dizaine d'années. Je commence par la préface à votre texte et on entend ensuite sa voix. Nous pourrions nous demander pourquoi un pays où la littérature est sacrée et fait figure d'écriture nationale, où les gens grandissent en embrassant les livres et en se rendant tel un pèlerinage sur les mausolées les plus célèbres poètes, se trouve-t-il être aujourd'hui le deuxième plus grand geôlier d'écrivains et d'intellectuels au monde ? Selon l'indice de Freedom to Write et le recensement annuel de Pen America, l'Iran est, après la Chine, le pays qui emprisonne le plus d'écrivains au monde. Et pour ce qui est de la liberté d'expression, les statistiques sont encore plus déprimantes. La peur des mots n'est pas nouvelle en Iran. Elle est en fait aussi ancienne que la littérature iranienne elle-même. Écrivains et poètes ont été victimes d'intimidations, assignés à résidence, emprisonnés, exilés, exécutés. Leurs biens ont été confisqués, leurs lèvres cousues, leurs langues coupées, leurs doigts brisés, leurs corps mutilés, suspendus à des grues en place publique. Il existe toute une catégorie de littérature persane, prose et poésie, consacrée aux atrocités réservées à celles et ceux qui se servent de leurs plumes pour dire la vérité aux puissants. La révolution islamique et son programme anti-intellectuel et ségrégationniste en particulier a eu des répercussions considérables pour les écrivaines et poétesses. Dans une récente interview, la talentueuse romancière Mahsa Mohebbali, qui vit en Iran, a déclaré « Quand écrire est votre profession, vous commettez deux erreurs. La première, être une femme. La seconde, être écrivaine. »
Sous les régimes répressifs, les peuples sont privés à la fois d'espace et de parole. Les rues sont surveillées, les places vidées, les rassemblements criminalisés. L'espace public est contrôlé de manière à ce que seules les voix autorisées puissent parler et que seuls les corps approuvés puissent apparaître. Dans de telles conditions, la poésie devient plus qu'une forme d'expression. Elle devient plus que des mots, des images ou des métaphores. Elle devient un lieu, une place publique, mobile, collective et irrépressible. C'est pourquoi les slogans du mouvement actuel en Iran ne sont pas seulement des déclarations politiques, mais aussi des poèmes et des vers scandés. Ils sont rythmiques, condensés, mémorables. Ils sont faits pour être répétés, repris, complétés par d'autres. Ils sont littéralement une place publique faite des mots. Tant qu'un vers peut encore être prononcé, répété, écrit sur les murs, transmis de bouche à oreille, d'une ruelle et d'une fenêtre ouverte à une autre, l'espoir survit au cœur du désespoir. Et ainsi, la lutte pour la démocratie et la justice continue.
C'est la voix de la poétesse et universitaire Farzaneh Milani qui nous a adressé ce texte, un extrait du texte qu'elle a eu l'amitié d'écrire pour nous, pour cette émission. Elle signe la préface de votre livre, Sharla Shafik, Un orage de mots, dans lequel elle insiste sur l'idée qu'il n'est pas du tout, au contraire, dérisoire d'évoquer la place de la poésie, de la littérature, du poème, de l'écriture rythmique, quand on parle du moment politique. Et en ça, peut-être on va englober non pas le moment dramatique qui est vécu là en janvier 2026, mais un moment de soulèvement politique contemporain en Iran.
Je suis très émue d'entendre la voix, la belle voix de Farzaneh Milani, qui m'a fait l'amitié de faire cette préface très belle, et à ce livre qui est finalement, si vous voulez, c'est un témoignage de la force des mots, puisqu'on vit dans un monde qui est tout le temps happé par les images. C'est pas mauvais, je regarde aussi les images, mais je pense que les mots disent beaucoup de choses de ce qui se passe. Et cet orage de mots, c'est les mots des jeunes femmes et hommes qui ont été tués, et tous les slogans, toutes les chansons qui les entourent, et tous les mots de cette révolution. Et cette révolution fait la suite à d'autres soulèvements. Et aujourd'hui, on vit un autre soulèvement qui fait la suite à cette révolution. Et dans ce nouveau soulèvement aussi qui est réprimé dans le sang, on retrouve les mots et les mêmes mots. Pour vous dire, un des mots que Farzaneh a dit dans le texte qu'elle vous a écrit, elle dit « il y a dans le désespoir, beaucoup d'espoir ». Et ça renvoie à un vers de Nezami, le grand poète iranien, qui dit « dans le désespoir, il y a beaucoup d'espoir ». Darna omidi basi omidas, poyon e shab siyah sepidas. La noirceur de la nuit termine toujours par la blancheur du matin, de la matinée, de l'aube. Et donc, si vous voulez, cette parole-là circule tout le temps, depuis tout le temps dans le soulèvement.
Mais avec une conscience de la référence poétique que vous récitez par cœur, oui. Charles Chafik et Leïla Anvar.
Absolument. Ouais. C'est pourquoi je trouve que cette émission est très bienvenue. Et je vous en remercie, puisque, en fait, on voit tout à fait une dimension de la poésie dans la politique qui à laquelle on ne fait pas attention ici. Je pense que pour beaucoup, beaucoup de pays, ça pourrait être comme ça. Pour l'Iran, c'est absolument vrai. Et c'est que la poésie s'est concentrée de l'âme. De l'âme de peuple iranien dans sa diversité, et il s'exprime dans toute révolution. C'est pas possible que ce soit autrement. Et en plus, il y a un deuxième aspect qui est très important depuis que je travaille sur les mots de jeûne, et c'est pas la première fois. Avant, je travaillais sur les blocs de jeûne. Depuis longtemps, je trace les mots, si vous voulez, les mots.
Oui, d'ailleurs, dans Un orage de mots, vous vous intéressez, on entendra tout à l'heure un morceau de rap, de hip-hop, vous vous intéressez aussi à ce qui circule sur Internet, aux tweets, aux vidéos virales. Il y a vraiment l'idée que c'est tout un orage, au sens, une sorte de tempête de mots qui circulent, et là, à l'intérieur de ça, comme un sous-sol poésie, mais millénaire, qui remonte, mais j'ai l'impression comme s'il y avait une circulation intense de la poésie dans ces moments-là, quoi.
Absolument, comme le sang qui coule dans les veines de l'événement. Et il y a une autre dimension que j'explore avec, d'ailleurs, il faut que j'ouvre une parenthèse pour rendre la justice à des personnes, ça veut dire, voilà, rendre hommage d'une part à cette jeunesse qui n'a toujours cédé à la censure. Depuis longtemps, vous savez, l'Iran, c'est un des premiers pays qui a accueilli les blogs comme le journal intime. Et sous pseudonyme, les jeunes Iraniens ont écrit pas mal de choses. Et après est venu le temps des révolutions, avant et aujourd'hui. Et donc, chaque fois, quand je les lisais, je travaillais là-dessous, y compris avant dans les blocs des jeunes, dans un essai, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, j'étais frappée de la dimension poétique. D'une part, de la présence, comme vous dites, de la poésie dans la parole, de la poésie classique moderne.
C'est-à-dire qu'il se réapproprie cette tradition poétique ancienne et il la cite.
Oui, il la cite, et en même temps, il y a des textes de ces jeunes qui sont comme des poésies, comme les moments poétiques.
Et donc là, plutôt du côté de la création contemporaine.
Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, quand vous avez aussi les chants ou les hymnes de la Révolution, il y a des morceaux repris par de la poésie contemporaine qui sont là. Donc, si vous voulez ça, c'est pas possible de ne pas le voir, c'est pas possible de ne pas en parler. Et ça renvoie à un autre aspect sur lequel je vais dire un mot et je termine. Donc, c'est là, dans la poésie persane, il y a une dimension de rebelle. Il y a une dimension de rébellion, plutôt, qui est parfois sous la dominance de la censure est cachée. Et tous les moments révolutionnaires font ressortir cette dimension. C'est ça qui est très important. Il y a, parfois, on a tendance à voir seulement le soufisme, de spiritualisme et tout ce qui est très vrai, essentiel. Mais il y a aussi une dimension
combative,
laïque même, et démocratique dans cette poésie, depuis la poésie classique jusqu'à aujourd'hui, qui ressort pleinement dans ces moments révolutionnaires.
On entendait aussi dans la voix de Farzaneh Milani l'idée très belle qu'un poème, c'est un cercle. Un poème, c'est un espace public. Quand l'espace public est confisqué ou quand certains corps autorisés ou à l'apparence autorisés sont seuls à pouvoir circuler, dire un poème, être capable de le dire par cœur. Farzaneh Milani dit aussi que des personnes non alphabétisées, qui ne savent pas lire ni écrire, sont en mesure de réciter par cœur des tonnes et des tonnes de vers de la poésie. Elle disait, cet espace public musique, il y rythmait et elle faisait mention de Jin Jiyan Azadi, Femme, Vie, Liberté, ou Zan Zendegi Azadi, comme étant une métrique presque, une sorte de métrique poétique scandée dans l'espace public. Absolument. Je me tourne vers vous, Lélie Anvar, dans ce moment un peu inaugural de cette émission. Ça pourrait avoir un aspect tout à fait dérisoire, voire même déplacé, quand on parle aujourd'hui de plusieurs milliers de jeunes gens abattus à portée de main, de sang-froid dans la rue en Iran, de parler de poésie. Or, j'ai l'impression qu'en vous réunissant autour de cette table, vous me dites non, pas du tout en fait. Parlons de poésie, ça fait sens.
Ah oui, ça fait absolument sens, ne serait-ce que parce que là, récemment, je suis évidemment abonnée à beaucoup de comptes à Instagram de poètes, de jeunes poètes ou de jeunes combattants. Et j'étais frappée, et tout à fait bouleversée d'ailleurs, de voir que même le deuil, même ce désespoir qui s'abat sur le peuple avec tous ces meurtres de masse...
Elle fait dans la forme poétique ?
Eh bien, bien sûr, elle s'exprime, le deuil s'exprime en poésie. Et de même que là, je savais pas que vous alliez faire entendre la voix de Mahtab Ghorbani, voilà, au début de l'émission,
dans hyper un poème. Hyper beau poème, où elle dit magnifique. Écoute pas mes poèmes,
voilà,
ma fille.
Alors elle dit n'écoute pas mes poèmes, mes filles. Et là, je viens de recevoir un texte que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas de qui il est, mais c'est quelqu'un qui dit, voilà, qui dit je quand tu viendras sur ma tombe, oh mon fils, dis des poèmes dis mon poème. Parce que tu me feras revivre. En fait, la poésie, c'est aussi ce qui se transmet. Donc, quand on dit qu'il faut faire entendre la voix, c'est aussi ça. Être porteur de cette voix poétique, c'est être porteur d'une voix qui ne va pas s'éteindre. Comme disait Forour Farouzad, seule la voix demeure. Et c'est vrai, au-delà de la mort des corps, quand les atomes de notre corps seront complètement dissous dans l'espace du temps, dit-elle, ce qui restera de nous, c'est notre voix, à condition qu'elle soit portée, évidemment.
On entendait, et on le lisait d'ailleurs dans votre livre, Charles Achafik, vous suivez aussi la piste des mots à la recherche des motifs qui sont comme ça des motifs constants. Il me semble que ce motif de la renaissance, de la vie après la mort, voire du phénix qui renaît de ses cendres, est quelque chose qui revient dans plusieurs vers qui sont cités, Lélie Anvar. Mais est-ce qu'on doit y voir là une sorte de pensée martyr, une manière martyr de se projeter dans la révolte ?
Je dirais pas, je dirais au contraire, c'est de dire que la vie qui est donc le terme central hein, du slogan « Femme, vie, liberté », je dois préciser aussi, comme Charles Shafir, nous parlons par parenthèse parce que c'est la technique iranienne de la narration. En tout cas, je dois faire une parenthèse pour dire que d'ailleurs, il y a d'un certain point de vue étymologique, alors les spécialistes sont pas tous d'accord, mais disons que beaucoup de spécialistes sont d'accord pour dire que même le mot « femme »,« zan », c'est en fait la même racine que « zendegi », qui veut dire la vie. Et que Mard, l'homme, c'est la même racine que Mordan, qui veut dire mourir. Et donc, en réalité, ce Zan Zendegi Azadi sonne beaucoup plus que juste femme, vie et liberté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une culture dans laquelle le féminin ne perdure pas dans la vie, c'est une culture morte. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes, en fait, sont des défenseurs de cette...
Donc c'est une affirmation révolutionnaire.
Absolument, c'est une affirmation révolutionnaire. Et sociétale, Charlotte. Et fondamentale, je dirais, même dans elle est porteuse d'une culture qui est elle-même contenue dans la langue. Et en fait, si je puis me permettre,
allez-y, bien sûr,
pour dire que la poésie persane, elle naît en même temps que la langue persane. Et ça se passe à la fin du 9e siècle de notre ère. Et ça se passe après ce que certains historiens iraniens appellent deux siècles de silence, puisque c'est deux siècles pendant lesquels
on ne peut pas la parler.
Non, c'est pas qu'on peut pas la parler, on la parle, mais parce que le gouvernement est devenu un gouvernement arabo-islamique, eh bien, les Iraniens vont se mettre à écrire le persan, l'arabe, les grands intellectuels vont produire de la poésie, des textes en arabe. Et au bout de deux siècles, par le fait des princes et par le fait des intellectuels, des poètes, etc., il y aura un mouvement qui sera le même que celui de la naissance de la langue persane dite moderne, qui a quand même plus de 1000 ans, et de la poésie. Et ça va être la volonté de princes et d'intellectuels qui vont se dire « nous combattrons par la langue ». Et ce qui fait que l'Iran a gardé sa langue, c'est ça. C'est que donc la langue et la littérature, c'est ce qui fondamentalement, depuis plus de 1000 ans, forge notre identité.
Et peut-être que c'est à ce point-là ce que disait Sharla Shafik, c'est-à-dire qu'il y a dans la langue persane et dans la poésie persane par conséquent une rébellion, une notion de résistance qui est presque intrinsèque
à la langue, à l'exercice de la langue elle-même. Et tout ce qu'on a subi, toutes les conquêtes qu'on a subies d'est en ouest et d'ouest en est, en réalité, elles ont toujours fini par être vaincues. Toutes ces invasions, ces attaques ont été vaincues par la langue, par la poésie, par la culture, à tel point que les Mongols se persianisent, les Arabes se persianisent, les musulmans se persianisent, tout le monde se persianise au contact de la puissance de cette culture portée par une langue.
Deux choses, deux réactions à ce que vous dites, Lélie Anvar. Déjà, l'idée de revenir sur ce Zanzendegi et l'idée qu'il y a un projet politique, là, un projet sociétal, ça revient à ce que vous dites, Sharla Shafik, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre un moment poétique et un moment politique. Et l'affirmer, c'est en fait avoir un propos révolutionnaire. Et puisque vous dites, Lélie Anvar, vous faites mention de cette date de 1000 ans, on pense au Livre des Rois, où Ferdowsi met le point final au Livre des Rois, très souvent mentionné en 1010, selon la légende. Et peut-être qu'on peut revenir sur ces deux points-là en évoquant le Livre des Rois, qui est souvent invoqué quand on parle de la source poétique, y compris reconvoquée en 2025-2026 dans les rues iraniennes et dans les campagnes iraniennes. Sharla Shafik.
Si vous voulez, c'est ce que a dit Lélie Anvar, qui est, ça veut dire Zan Zendegi Ozodi, c'est ce que j'explique dans ce
Orage
livre aussi, Orage de Mont. C'est une révolution, ça veut dire c'est un peu un plan d'une révolution ou une existentielle, si vous voulez. C'est pourquoi c'est exactement ce qui a été expliqué. Ça veut dire, en fait, avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, la République islamique a proposé à la société un projet, ça veut dire un projet de formatage d'une Oumma, un retour à l'Oumma. Et donc, en fait, la nation est remplacée par l'Oumma. Et effectivement, dans cette Oumma, l'islamité porte sur l'iranité, si vous voulez. Ici, à partir de ces révolutions, et même aujourd'hui, ça se voit, il y a ce retour vers l'iranité depuis 3-4 décennies, on le voit, même dans la deuxième décennie, on le voit, je l'ai vu et on peut le poursuivre jusqu'à aujourd'hui avec les mots. Et c'est pourquoi toute cette...
Mais comme étant l'essence d'une identité à retrouver.
Mais c'est pas une iranité dans le sens de fermeté de l'identité nationale, dans le sens de retour à la culture, à une culture que, comme a dit Lélie, fait sens pour l'unité, si vous voulez, et la langue qui fait sens. Et ce qui est intéressant dans ce projet Femme, Vie, Liberté, c'est que femme n'est pas seulement femme. C'est Zan avec Zendegi, avec la vie, femme et vie. Et si on regarde dans l'idéologie de l'islamisme, et je tiens à dire que l'islam n'est pas l'islamisme, l'islamisme est une idéologie, un programme politique qui idéologise la religion, la femme est à la base de cette idéologisation. Le sexisme est à la base de cette idéologisation, mais qui, à la fin, réprime tout le monde. À la tête de ce pouvoir, il y a le leader suprême religieux qui réprime tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes hommes et moins jeunes qui participent. C'est une révolution populaire. La femme est au centre de cette révolution.
Mais dans un en avant aussi, alors évidemment, de toute façon, il n'est pas question de considérer un peuple iranien qui serait monocorde, qui ne penserait qu'une seule chose. C'est vraiment pas notre propos aujourd'hui. Mais j'entends aussi, puisque vous avez, Sharla Shafik, tendu l'oreille à la jeunesse et à ce qui circule dans la rue, sur les réseaux, etc., qu'il n'est pas question de revenir à une identité passée, figée dans le passé, qui serait séculaire. Ces jeunes gens veulent un en avant dans un monde aussi qui... Les personnes que vous décrivez là, et dont malheureusement certains ont été tués et assassinés par le régime, sont des jeunes gens qui ambitionnaient qui de faire de la musique, qui de faire du graphisme, qui de faire du cinéma, qui de faire du rap, et donc aussi ont une vision portée vers le futur, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois ils s'emparent de cette poésie qui est une tradition millénaire, mais ils la transforment, ils la contemporanéisent, Lélie Anvar.
Oui, alors en fait, c'est peut-être le seul mot avec lequel je ne serais pas d'accord, c'est le mot de retour. Je crois qu'il n'y a pas de retour parce qu'il n'y a jamais eu d'aller dans une impasse, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus qui n'a jamais cessé. On peut pas dire que là, d'un coup, ils se sont réveillés, ils veulent faire retour au passé. Mmh. En fait, pas du tout. Et même sous la République islamique, même sous les moments les plus difficiles de la République islamique, il faut quand même reconnaître que les jeunes ont eu accès à la culture. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que le Livre des Rois n'est pas un livre qui tranche sur la question, les questions religieuses, les questions idéologiques, etc.
Donc c'est un poète, Ferdowsi, voilà. 1010.
Voilà, la fin c'est Ferdowsi. Donc voilà, il a composé ce poème pendant 30 ans. Ça a été une grande entreprise. Et il explique très bien que son entreprise, c'est de conserver le passé, bien sûr, le passé de l'Iran, la mythologie, la légende des rois anciens, etc. Mais pour informer sur la royauté juste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un roi juste? Et nous avons dans notre littérature toute une tradition qui commence avant Ferdowsi même, et qui est ce qu'on appelle la tradition des miroirs des princes. Et peut-être un des plus brillants représentants de cette tradition des miroirs des princes est le poète Saadi, au XIIIe siècle, qui s'adresse aux puissants, qui vit à l'époque où les Mongols vont tout détruire en Iran, c'est un poète du XIIIe siècle, mais qui s'adresse aux puissants en leur expliquant pourquoi il faut être juste. Parce que sinon, on est emporté par l'orage des mots et surtout l'orage de la malédiction d'un
mais
peuple.
Mais l'autre orage, c'est-à-dire voilà. L'orage des mots, des
l'orage d'une révolution.
Voilà, exactement. Ce que vous décrivez aussi, Charles Achafik, c'est-à-dire la transformation et l'utilisation perverse des mots par un régime qui veut mater son peuple.
Mais ils n'ont pas réussi. Je voudrais quand même insister sur le fait que c'est vraiment un échec de ce point de vue-là.
Le projet islamiste, de toute façon,
oui,
qui amène à cette révolution. Mais le langage qui a été perverti, je suis d'accord, quand on parle de retour, ça veut dire, en fait, c'est un renvoi. Et si vous voulez, la culture, l'héritage culturel, l'héritage historique, va être réinvesti pour créer une future.
Mais c'est ça qui est assez intéressant, parce que tout à l'heure, vous disiez, Leïli Anvar, dans ce Livre des Rois, donc poème dont la rédaction se termine en 1010, il y a une dimension de transmission. Mais c'est comme si aujourd'hui, dans la rue, en France, partout en France, des jeunes gens de 25 ans, de 18 ans, ou des familles, des gens de 40 ans, je ne sais pas, clamaient ou étaient capables de reconvoquer pour fabriquer de la révolte politique des poèmes de l'an 1000.
Oui,
en fait, c'est ça qui se passe à Téhéran.
Absolument.
Et ailleurs.
Et en fait, c'est pas possible dans beaucoup d'autres langues pour deux raisons. La première, elle est purement linguistique, c'est que nous, aujourd'hui,
on ne pourrait pas parler le français de l'anglais.
Non, on comprendrait rien, alors que les Iraniens d'aujourd'hui comprennent, surtout qu'ils sont quand même massivement scolarisés. Mais en tout cas, même quelqu'un qui est analphabète comprend, en gros, la langue de Ferdowsi, c'est à peu près la même, disons.
Mais par exemple, il y a un grand personnage dans le Livre des Rois qui s'appelle Siavash.
Oui.
Mais moi, j'ai l'impression que quand on parle politique avec des jeunes gens, on va dire qu'en mon âge, c'est-à-dire entre 40 et 45 ans, et qui suivent de très très près la révolte politique, vraiment purement sociétale, politique, économique, révolutionnaire en Iran, ils nous parlent de Siavash. Ils nous parlent de Siavash du Livre des Rois.
Mais parce que, en fait, c'est la figure du martyr, du prince qui a été, en fait, envoyé à la mort, en fait, par son père, et qui a été tué par son beau-père. Il ne faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a une dimension... Moi, j'ai enseigné aussi bien la littérature française, anglaise que persane, et je dois quand même reconnaître qu'il y a une actualité de cette poésie persane qui est sidérante, même ailleurs qu'en Iran.
Parce qu'elle critique un régime patriarcal et masculin.
Mais en fait, oui, c'est pas qu'elle le critique dans le sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a chez Ferdowsi une sagesse d'une profondeur psychologique, d'une profondeur politique, d'une profondeur poétique.
Dont on peut s'emparer, en fait.
Dont on peut s'emparer, et quand je parle à mes étudiants, je leur dis, regardez, Ferdowsi, bien sûr, c'était il y a 1000 ans, mais il nous parle d'aujourd'hui. Il nous parle de la révolte des jeunes aujourd'hui. Ce qu'il nous dit de l'Iran est encore vrai aujourd'hui.
On vous a demandé aux unes et aux autres de venir avec des poèmes pour cette émission spéciale du Book Club. Et vous nous avez proposé, Charles Achafik, de faire entendre un poème de Shimin Behbahani.
Shimin Behbahani.
Je te reconstruirai ma patrie. On a évidemment gardé des extraits. On écoute un extrait.
« دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش. ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو. دوباره می شویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. Je te reconstruirai, ma patrie, fût-ce avec l'argile de mon âme. Je te bâtirai des colonnes, fût-ce avec mes propres ossements. Grâce à ta jeune génération, je sentirai à nouveau le parfum de ta fleur. Avec mes larmes qui coulent, je laverai à nouveau le sang de ton corps. Un jour, les ténèbres quitteront cette maison, et je mettrai dans ma poésie le bleu de notre ciel. Même si je suis morte depuis 100 ans, je me dresserai dans ma tombe pour que mes cris terrassent le cœur du mal. Même vieille, je recommencerai ma jeunesse aux côtés de mes enfants.
C'est la voix de Shiva Ruolamini, qui est une des personnes qu'on a appelées à 22h, un de ces jours, pour monter cette émission spéciale. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de venir lire en persan aujourd'hui et en français ce poème qu'on trouve dans votre livre, Charla Shafik. C'est un extrait. Ce qui est intéressant, c'est que ça coche presque toutes les cases des motifs permanents dont vous parliez, c'est-à-dire la reconstruction, les fleurs, les larmes, la renaissance auprès des enfants après la mort, mais par le poème, position aux ténèbres politiques par le bleu et par la lumière. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot de cette poétesse et des raisons de votre choix, Charla Shafik?
Oui, c'est... si Ferdinand Milani était là, elle aurait aussi beaucoup de choses à dire, puisque c'est elle qui a présenté aussi le travail de Simone Berbani en anglais. Elle a traduit des morceaux. Et donc, Simone Berbani, je l'ai rencontrée ici, puisqu'elle est venue pour recevoir le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en 2011. Je pense, je me rappelle, ça veut dire en fait la date, vous me pardonnez si je l'ai pas en tête, mais en tout cas, et c'est une femme qui était, c'est la plus grande poétesse, une des, ça veut dire, voilà, une figure de la poésie contemporaine importante, mais en même temps une femme très active dans les mouvements des femmes, une femme qui n'a jamais cédé à la censure, et finalement une femme qui donnait beaucoup de place à l'amour dans sa vie, en fait un concentré d'amour, que ce soit l'amour de la poésie, l'amour de pays, l'amour de liberté. Et pour nous toutes et pour nous tous les Iraniens, c'est un modèle, si vous voulez, par rapport à une intégrité, fait vivre comme on pense. Et là, elle est, et toute sa poésie raconte l'histoire de ces 4 décennies. C'est une femme, d'ailleurs, qui, contrairement à des clichés, elle a eu un sursaut révolutionnaire après l'âge de 40 ans, après l'âge de... Si vous voulez, elle a commencé, elle a eu toujours cet aspect de jeunesse qui était très surprenant. Et elle a changé beaucoup aussi dans les... Moi, je ne suis pas spécialiste de la littérature, mais même l'art de rime, elle a changé, elle a révolutionné la poésie classique. Après un certain âge.
C'est intéressant ce que vous dites là, Charla Shafik, parce que dans le peu d'informations qui nous parviennent sur les soulèvements contemporains, là, vraiment, ces dernières semaines en Iran, on mentionne que l'âge est très mélangé dans les rues et qu'on a beaucoup parlé, notamment pour Femmes, Vie, Liberté, d'un mouvement de la jeunesse et des jeunes gens. Mais apparemment, là, dans le pays, l'âge serait plus mélangé. Mais pour revenir à ce poème que vous souhaitez entendre aujourd'hui, « Je reconstruirai ma patrie », concrètement, c'est quoi ? C'est les gens le récitent ? Oui. Les gens se l'envoient, les gens se l'envoient par texto. Comment ça circule, cette poésie contemporaine ?
Ça a été fait, une chanson très connue en Iran. Mmh. Ça a été chanté. Et moi, c'est plutôt l'esprit, si vous voulez, cette iranité dont je parle. Je te construis ma patrie, avec ma vie et avec ma mort. Et c'est de ça que... On voit dans les deuils actuels, par exemple, sur la tombe des jeunes tués aujourd'hui, les parents et tous les enfants qui restent, ou toutes les proches et les amis et les gens qui, les autres qui chérissent ces gens donnés,
disent des poèmes.
Voilà, leur sang pour le pays. Elle vient, elle danse, et tout le cérémonie de deuil est mélangé de larmes et de sourires pour les gens qui, pour les gens qui sont pas morts pour rien.
Mais en même temps, c'est insupportable d'entendre
ça. C'est insupportable, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ça, c'est-à-dire, ok, donc il y a des familles réunies autour des tombes qui disent des poésies, mais en fait, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a des mômes qui sont tombés dans la rue quand même.
Et oui, ils dansent, mais en plus, ce que vous voulez, c'est aussi un défi soulevé au régime.
Ça veut jusqu'au dire bout, un défi. C'est-à-dire même jusqu'au après
bout,
la mort, en fait.
Même jusqu'au bout, les gens qui ont perdu leur être cher, et vous imaginez une jeune femme de 18 ans hier, où j'écoutais la cérémonie, qui, dont le corps a été trouvé parmi des corps, puisque le pouvoir lâche, ça veut dire, en fait, quand les, ne donnent pas les corps comme ça, ils doivent, les familles doivent aller chercher les corps parmi les corps.
Oui, ce que vous écrivez, qui est l'humiliation d'après l'humiliation, où vous décrivez des scènes où des pères doivent aller réclamer au commissariat, supplier pour que soit rendu le corps meurtri, pour que vraiment, au dernier degré de la dignité, soit supprimé aux familles et aux jeunes gens.
Oui, mais maintenant, aujourd'hui, ils ont dépassé une stade par rapport à ça. C'est qu'ils les mettent ensemble, tous, et les parents doivent venir chercher le corps de leur enfant parmi les corps. Et cette jeune femme de 18 ans, son corps Setare, qui s'appelle Setare, ça veut dire étoile, son corps a été retrouvé par les parents parmi les corps des hommes. Parce qu'ils mélangent les corps, vous voyez, c'est toutes les atrocités. Après, la famille récupère et après, les gens essayent de dire, nous, c'est pas un mort pour rien. Nous, nous voulons rendre ce, et donc le mot martyr. Moi, j'ai entendu les familles qui disent, on va pas utiliser le mot martyr. On va shahid en persan, martyr. Ils disent qu'on voulait dire Javid Nam. Ça veut dire le nom qui reste éternel. Éternel. On va remplacer le nom, le nom immortel va remplacer le mot. Vous savez, c'est une guerre de mots, c'est un combat de mots. C'est pourquoi c'est pas du tout anodin. Les mots ne sont pas anodins. Les poésies qui sont citées ne sont pas anodines. Tout a un sens par rapport à ce projet. Et pour le dire aussi par rapport, pour revenir à cette lumière qui vient de ténèbres, il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand les gens même escandent le nombre de la personne qu'ils veulent appeler, par exemple, Reza Pahlavi, et tout ça, ça fait référence à tout cela. C'est que nous allons construire, non pas pour rentrer, pour faire un retour vers le passé, mais pour un futur, mais construit avec les mots, avec les images, avec notre héritage à la fois politique et culturel, sans pour autant vouloir reconstruire absolument ce qui a été. Tout ça, il faut rester attentif aux mots.
Oui, sur ce combat de mots, Leïli Anvar, qui se poursuit finalement sur la tombe, sur la dépouille des jeunes gens, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'ultime... Ça aussi, ça pourrait être considéré comme étant tout à fait naïf. Or, vous vous dites, non, c'est un ultime combat. C'est-à-dire que, de toute façon, les familles, les frères, sœurs, amis, oncles et tantes, devant la dépouille, c'est l'arme qui leur reste. Le poème à déclamer ou le mot à mettre dessus, c'est l'arme qui leur reste.
Ben, je reviens à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que il y a ce rapport au mot, à la poésie, qui est un rapport absolument vital. C'est comme si, en fait, l'esprit vital était effectivement impossible à tuer, puisque précisément, et on l'a entendu même dans le poème, elle dit « mes cris ». Vous entendrez mes cris par-delà la tombe. Effectivement, on entend son cri par-delà la tombe. Et le fait, vous savez, par exemple...
Ce qui donne quand même, vraiment, à vous écouter depuis tout à l'heure, ce qui donne une place à Zendegi.
Oui,
quelque chose de très puissant, finalement, dans le slogan révolutionnaire.
C'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé de
non,
ça.
Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, Zendegi, c'est un principe vital qu'on entend au cœur du slogan révolutionnaire Zendegi, quoi.
Absolument. Et je voudrais aussi préciser au sujet de Simine Behbahani qu'elle a... bien qu'on lui ait, on ait voulu l'exfiltrer plusieurs fois, etc., elle a insisté, elle est restée en Iran, elle a dit « moi je mourrai en Iran », elle a été quand même emprisonnée, elle a été battue, elle a été de tous les combats dans la rue, etc. Donc c'est vraiment une femme qui a tenu ensemble les deux. Quand vous dites « ce n'est pas vain », elle savait que ce n'était pas vain. Mais surtout parce que elle, contrairement à moi par exemple, qui suis ici à Paris, je ne fais que parler de la poésie, je fais ce que je peux dans le peu que je peux, mais elle a fait les deux. Elle était à la fois dans un combat poétique, et d'ailleurs, symboliquement, c'est très fort, parce que elle a repris toutes les formes anciennes et les a renouvelées d'une façon très originale. Et en fait, elle symbolise en fait ce que peut le changement lorsqu'il est enraciné
dans un passé,
dans un passé profond.
Ce que disait Charles Archive, c'est-à-dire aussi l'idée d'une vie qui est la forme de la pensée de cette vie et une traduction dans les actes, en fait, de la pensée politique. Vous parliez de la transformation en chanson. C'est quelque chose que vous développez beaucoup dans Un orage de mots, la manière dont la chanson populaire, les slogans, les chansons dans la rue, mais aussi le hip-hop et le rap s'emparent de formes poétiques anciennes. On va entendre un musicien qui joue un rôle important dans ce moment iranien, c'est Toumaj. Je vais vous dire le titre, je ne sais pas le dire, c'est Surakhmush.
Surakhmush.
Voilà, c'est une chanson qui a quelques années. On va l'entendre avant d'aller vers un deuxième choix poétique.
اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی تو هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن دوری از وطن و دوربینای ما همسو نیستن یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین ژورنالیست بازداری مخبر دوزداری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزدور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کیزی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم ما منجی زمانیم امام زمانیم
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، اما وی کفش‌هایش را گم کرده بود. گم کرده بود. تکه به تکه دندان‌هایش را کند، اشک چشمانش را، گوشت‌های اضافی انگشتانش را. La ville lui avait ouvert une porte, mais elle a perdu ses chaussures. Elle s'arrache les dents, une à une. Les larmes de ses yeux, le surplus de peau de ses doigts, ses ongles, un à un. Et enfin, elle se coupe les cheveux avant d'attacher ses lacets. Elle se met en route à la recherche d'une lueur, d'une flamme de lumière. Elle fait de grands pas, puis elle se met à courir pour atteindre au plus vite le sens recherché. Lequel ? La vie ou la lumière ? Ou les deux ? Ont-elles la même signification ? Elle arrive au clair de lune, elle s'arrête, puis baisse la tête. Ses chaussures sont à ses pieds. La fille a-t-elle vécu ?
À propos de ces vers, Charles Achafik, vous dites « Ne disent-ils pas la cruelle mise à mort d'une jeunesse assoiffée de vie par un pouvoir obscurantiste ?» Ici, il y a une mise en abîme, on a parlé de la tradition plus que millénaire qui, comme sue dans les révoltes contemporaines. Mais ici, c'est la production poétique ultra-contemporaine d'une jeunesse assoiffée de liberté qu'on entendait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette jeune fille, Sarina ?
Sarina, c'est une figure, c'est une icône de la révolution femme et liberté, mais je pense qu'elle pourrait être icône des jeunes qui se font tuer aujourd'hui aussi dans les rues, et puisque c'est toute une jeunesse, comme vous l'avez dit, qui est en train de se disséminer depuis longtemps. Et c'était une jeune femme surdouée d'un lycée, ça veut dire en fait elle était parmi les premières de la classe, et elle était très très, elle avait des canaux de Telegram où elle mettait son déclamation, ses films, ses vidéos.
Donc une voilà. Application de messagerie.
Voilà. Et ce qui est, quand elle a été tuée en faisant en allant dans les manifs, et comme ça a été passé pour Nika Shakarami, une autre icône, elles ont dit que ça veut dire que les autorités ont essayé de dire que c'était un suicide. Et en même temps, ils ont fait la chose perverse qu'ils font. Ils ont changé, ça veut dire ils ont dédoublé le canal de Telegram de cette jeune femme et ont fait une fausse page. Et ça, quand je suivais les mots, je me suis dit, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, il faut... Comme ils changent des mots, ils déforment les mots, ils font d'autres choses. On a construit un groupe de travail et voilà, avec trois autres personnes, des Iraniens ici, Zohra Habib Mohammadi, Pasha Tawakkoli, Reza Nasehi, qui ont aidé avec moi de chercher les pages des jeunes tués, de les vérifier. Et vraiment, c'était un travail aussi d'enquête, si vous voulez. C'était pour dire seulement qu'on est dans une guerre de mots. On est dans tous les sens du terme, dans une déformation, dans le mensonge, dans la propagande. Et c'est tout ça qui donne sens aussi à cet investissement des jeunes par les mots. À des investissements des gens par les mots.
Un véritable champ de résistance.
Un véritable champ de résistance. Et cette jeune femme qui a été retrouvée morte, voilà, très abîmée, si vous voulez, c'est devenu un icône. Et donc, il y a eu dans son lycée, après, une chaise vide, tout ça. Mais effectivement, il y a ces images qui restent. Et par la suite, dans son anniversaire, et le jour de mort et tout, il y a toujours aussi un rappel. Et aujourd'hui, tous les parents qui parlent, ils disent que c'est tous nos enfants, même pour les enfants d'aujourd'hui, qui sont morts, puisque c'est extrêmement jeune, extrêmement jeune. Elle avait 15 ans et demi, 16 ans, si vous voulez. Et quand vous lisez, par exemple, ce poème que j'ai choisi pour ici, c'est que, est-ce que la fille a vécu? C'est la même chose qu'on peut dire pour tous ces jeunes.
Bien sûr.
Ils et elles étaient privés de leur vie. Et ça nous renvoie à cette vie. Zendegi. Et ça, vous êtes en face de la mort. C'est pourquoi je dis femme, c'est pas que femme. Vie, c'est l'ensemble d'un pouvoir mortifère. Et liberté, c'est le chemin par lequel ça doit passer. Et aujourd'hui, tout le pays est encore une fois engagé dans cela, de sortir de ténèbres pour atteindre la lumière.
Là aussi, ça revenait d'ailleurs, la notion de lumière et de l'obscurité. Je voudrais qu'on évoque une autre figure, mais celle-ci un tout petit peu plus ancienne, quoique à peine, une figure de poétesse, mais elle a aussi quelque chose de la jeunesse, en fait, et de la féminité. C'est Foroor Farrokhzad, qui est souvent évoquée, d'ailleurs, y compris par les personnes très engagées dans la vie politique en Iran, à qui vous consacrez, Leïli Anvar, un livre à paraître aux éditions Gallimard Poésie, une édition que vous traduisez et préfacez et introduisez. Peut-être avant qu'on entende le poème que vous avez choisi, qui se titre à dessein « Révolte », un petit mot de présentation.
Oui, Fouloufa Rozod, en fait, dont elle est née en 1934 pour la situer. Elle est morte en 1967 dans un accident de voiture, donc elle était aussi très jeune. Alors, en l'occurrence, c'est un accident de voiture, mais
33 ans.
Elle a, oui, c'est à peine. Elle venait d'avoir 32 ans. Et en fait, elle, donc elle est restée une sorte de figure d'icône de jeunesse éternelle. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'en 32 ans, elle a eu le temps de vivre 1000 vies. On lui a beaucoup reproché, et d'écrire bien sûr, 5 recueils de poésie dont je donne la traduction complète dans cette édition, dans cette...
C'est une anthologie que vous proposez?
Ah non, c'est pas une anthologie, c'est l'œuvre poétique complète. Okay. Donc les 5 recueils entièrement traduits, avec voilà, une préface et une postface. Mais si vous voulez, en fait, aujourd'hui, même dans le mouvement Femmes et Liberté, toutes les femmes qui, en Iran, en Afghanistan, toutes les femmes qui, dans la langue persane, disent de la poésie, ont toutes lu Fouloufa Rozod, elles ont toutes, un jour ou l'autre, eu le courage d'écrire, de se saisir de la parole, qui n'est pas l'espace des femmes habituellement, donc de se saisir de la parole, parce que Fouloufa, au prix de sa réputation et de beaucoup de choses, leur a obtenu ce droit dans les années 50. Et c'est vrai que quand elle a commencé à écrire, elle avait 18 ans, elle a publié des poèmes qui ont fait scandale, parce qu'elle y parlait de choses...
Notamment de désir, de sexualité.
Voilà, absolument de désir. On lui a beaucoup reproché, puisque ses premiers poèmes paraissent en fait en même temps que le coup d'État contre Mossadegh, et donc qui a mis un coup d'arrêt à la démocratie en Iran. On lui a beaucoup reproché de ne pas s'être engagée politiquement, de ne pas faire de la poésie politique. Et en réalité, elle n'a jamais directement répondu, mais elle répond par ses poèmes que elle fait de la politique parce qu'elle est une femme qui se saisit de la parole. Et je pense d'ailleurs...
En soi, c'est politique.
En soi, en soi, c'est politique qu'une femme entre... Et c'est ça, c'est Farzaneh Milani qui a une remarquable biographie de Fouloufa, voilà, qui le dit. Elle dit en réalité, Fouloufa, elle est entrée dans l'espace public avec sa parole. Et sa parole a fait que, soudain, la femme est devenue... est devenue capable, en fait, de dire « je » est devenue un sujet. D'ailleurs, dans ses poèmes d'amour, elle est le sujet de l'amour. Elle n'est plus l'objet.
L'objet, juste regarder, admirer, désirer.
Je pense que c'est ça que les hommes ne lui ont pas pardonné. Et c'est intéressant parce que là, l'œuvre de Fouloufa était interdite au début, après la révolution islamique, donc dans les années 79 jusqu'à à peu près 85-86. Mais ils ne peuvent pas arrêter sa voix. Donc finalement, ils ont fini par accepter de republier ses recueils, bien sûr avec des vers qui ont été enlevés, qui ont été censurés. Mais c'est-à-dire que tout le monde connaît par cœur la poésie de Fouloufa.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on peut aussi même supprimer la publication de certains recueils à partir du moment où les poèmes sont connus par cœur, comme vous semblez le dire autour de cette table. Ils circulent même sans que les livres soient publiés ou imprimés. Je reviens aussi sur ce qu'on vient d'entendre dans le poème de Sirani et l'idée de se couper les cheveux. Vous consacrez quelques pages, Charles Chafik, à ce geste-là, en disant qu'il est paradoxal, on pourrait avoir l'impression d'un sacrifice. Or, là encore, c'est la vie dans la mort, c'est l'élan vital qui permet ce geste-là. On l'a vu beaucoup au moment de la révolution Femmes, Vie, Liberté.
Tout à fait. Et si vous voulez, dans les contes anciens persanes, il y a aussi cette idée, puisqu'il y a une tradition dans certaines régions où quand vous coupez, quand vous êtes en deuil, vous coupez. Et dans la Ferde aussi, dans le Livre de Roi aussi, il y a ça. Quand il y a un deuil, on coupe les cheveux, on le donne ou on le met
surtout
sur
la femme
cheveux.
De Siavosh, puisque voilà, vous avez évoqué Siavosh. Voilà. La femme de Siavosh, voilà, au moment où son mari meurt, elle se coupe les cheveux.
C'est une tradition ancienne, mais en même temps, il y a des contes anciens qui disent « vous coupez les cheveux, vous le donnez à la rivière ». Ça va avec l'eau ou vous le donnez à la terre et ça va faire pousser les fleurs.
Et on en revient à l'idée de la renaissance.
Voilà, la renaissance et la végétation. Ça veut dire en fait, il y aura des fleurs et rien ne se perd, si vous voulez. Et surtout, l'amour donne aussi la place à la vie. Et toute cette idée que l'amour et la vie, ça veut dire en fait, ne pas regarder dans l'amour comme la fin, mais comme le commencement.
Oui, enfin, c'est voilà. Quand même la vie de chacun des individus
bien sûr,
qui est
bien
arraché.
Sûr, bien sûr, mais c'est là où, par exemple, si dans la pensée dite religieuse, surtout islamiste, le martyr est pour aller au paradis, ici, non. Ici, vous donnez votre vie pour quelque chose, vous donnez votre vie pour la vie. C'est exactement le contraire de l'idée islamiste de martyr. C'est autre chose. C'est pourquoi un vers de Furour qui dit, Furour Farrokhzad, dont Farzan Milani a conseillé, j'espère que ça va être traduit en français, et je dis à Leïli ça avec beaucoup de... Voilà, ça, si vous voulez, c'est... Il y a un vers d'elle qui dit l'oiseau va mourir, mais il faut...
L'oiseau est mortel.
Voilà, mortel. Il faut se rappeler de vol.
Il faut se rappeler... De son vol.
De son... Non, du vol.
Le poème s'intitule « Souviens-toi de l'envol ».
Voilà, de l'envol, pardon. Ça veut dire, en fait, ne pensez pas à la mort d'oiseau. Souvenez-vous de son envol. Et c'est là, ça veut dire l'élan de vie. L'élan de vie. Toujours.
C'est d'ailleurs le dernier poème du recueil « Une autre naissance ».
Voilà.
Et effectivement, le poème se termine par « Souviens-toi de l'envol, car l'oiseau, lui, est mortel. »
On va écouter le poème que vous avez choisi, en tout cas un extrait de Furour Farrokhzad, « Révolte ».
به لبهایم مزن قفل خموشی که در دل قصه اینا گفته دارم زپایم باز کن بند گران را که از این سودا دلی آشفته دارم بیا ای مرد ای موجود خودخواه بیا بکشای درهای قفس را اگر عمری به زندانم کشیدی رها کن دیگرم این یک نفس را Ne scelle pas mes lèvres au cadenas du silence car j'ai dans le cœur une histoire jamais racontée Délivre mes pieds de ces fers qui les retiennent, car cette passion m'a bouleversée. Viens, homme, viens, toi, sommet de l'égoïsme. Viens ouvrir les portes de la cage sur moi. Toute une vie, tu m'as voulu en prison. Dans le souffle de cet instant, délivre-moi. Je suis l'oiseau, l'oiseau qui depuis longtemps songe à prendre son envol, à aile déployée. Mon chant s'est fait plainte dans ma poitrine serrée, et dans les regrets, ma vie a reflué. Ne scelle pas mes lèvres au cadenas du silence, car il me faut dire mon secret bien caché, et que je fasse entendre au monde entier le crépitement de mes chants enflammés.
La voix de Shiva Ruolamini qui lit votre traduction de Révolte de Furour Farrokhzad, à qui vous consacrez un livre, La poésie complète, bientôt publié aux éditions Gallimard. On avait enregistré la voix de Paul de Brancion qui a lu votre livre, Charla Shafik, et qui trouvait magnifique en effet cette évocation, mais qui vous posait la question de la difficulté d'écrire, de parler, même d'être ici en direct toutes les trois depuis l'extérieur de l'Iran. Est-ce que vous voulez conclure là-dessus très rapidement, Charla Shafik?
Oui, Paul de Brancion que je connais, donc je connais aussi la poésie, et je le remercie pour cette belle question qui fait... Ça veut dire de l'exil, comment on vit le pays et comment on vit tout. Moi, je pourrais dire que quand je suis arrivée en exil, il y avait déjà un océan de sang derrière moi. Ça veut dire, en fait, j'avais perdu beaucoup de camarades en prison, etc., ayant participé dans les luttes. Et effectivement, ici, j'ai commencé à écrire, c'est les mots qui m'ont sauvée de la douleur de l'exil et qui m'ont fait aussi le lien avec l'Iran. Et je veux dire que j'ai retrouvé mon pays en exil encore plus. Et l'Iran vit à l'intérieur de moi, à l'intérieur de tous les exilés. Et aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les messages qui nous viennent de l'Iran, toutes les manifestations que font les Iraniens à l'extérieur sont énormes. Et il n'y a pas d'or et dedans maintenant. Tout est lié.
Merci infiniment Charla Shafik, merci infiniment Leïli Anvar, merci infiniment Shiva Ruolamini, un très grand merci à Farzan et Milani pour ce très beau texte qu'elle nous a confié. Je dois dire que cette émission, elle aurait eu vraiment du mal à se monter sans Massa Karampour et tous les amis de sa boucle WhatsApp. Donc un immense merci à mon ami Massa, un immense merci aussi à Justine Landau, Shora Makaremi qui ont été des interlocutrices précieuses, à Jeanne Aléos qui a monté cette émission avec moi, Noé Margas, Mathilde Wagner, Bergman, Marianne Chassor, Garance Roubieux et Alexandra Laïbegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club. Au son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang, à la réalisation Vivien Demeyer.